Décryptage. Anne Corpet.
Les Iraniens sont appelés demain aux urnes pour élire le successeur d'Ebrahim Raïssi, disparu dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Tous les prétendants à la présidence ont été passés au filtre sévère du Conseil des gardiens de la Constitution. Deux candidats ultra-conservateurs se sont retirés de la course ce vendredi. Ils ne sont plus que quatre à s'afficher sur les bulletins de vote. Entre la République islamique et le peuple iranien, la rupture semble totale, ébranlée par les soulèvements qu'il a réprimés dans le sang et par une crise économique sévère. Le régime espère cependant qu'une participation importante au scrutin lui apportera un vernis de façade. Et nous sommes avec vous, Ahmad Salamatian, en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste de la situation iranienne, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères et auteur de « L'Amérique en otage, 444 jours de diplomatie secrète en Iran ». C'est paru aux éditions Rive-Neuve. Merci d'être avec nous.
Beaucoup de gens n'iront pas voter. Il y aura peut-être une plus grande participation que lors de la dernière élection, mais pas au niveau de ce que souhaite le pouvoir. Les gens savent que personne ne peut changer quoi que ce soit sans l'accord des gardiens de la révolution.
Cette Iranienne a été jointe lundi par Oriane Verdier. Elle est professeure et donc elle ne se rendra pas aux urnes demain. Ahmad Salamatian, la question de la participation, c'est un enjeu clé de ces élections?
Vous savez, les élections en Iran, les élections présidentielles surtout, c'est plein d'imprévus. Lundi, c'est déjà trop tard pour aujourd'hui parce que les choses évoluent avec une vitesse incroyable. Le pouvoir avait l'intention de chercher une légitimité pour sa politique.
Donc, il espérait un fort taux de participation.
Il espérait mobiliser ses ouailles, ses disciples, ses partisans. Mais chaque moment de l'élection, par la nature même de l'élection présidentielle au suffrage universel, c'est une épreuve de contrôle pour les pouvoirs les plus autoritaires. Ça peut leur échapper. Ça dépend s'il y a un dynamisme, si l'électorat qui cherche par tous les moyens de se trouver un espace trouve de quoi parler le temps ou non. Dans cette élection qui était bien contrôlée, bien organisée, il y en avait 5 candidats de fin fond du sérail, un seul qui était un peu différent. Mais permettez-moi de vous dire, depuis une semaine, les choses changent et il y a un enjeu en train de se faire pour cette élection qui peut être aussi une crise pour le pouvoir de la République islamique.
Le désistement, par exemple, aujourd'hui de deux candidats ultra-conservateurs, c'est pour vous le signe d'une forme d'inquiétude de la part du pouvoir?
Non. Ces deux candidats, c'était uniquement là pour essayer d'embellir la situation pour le candidat qui est en secret. Le problème le plus important, c'est que le jeu a changé. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible que celui, le petit qu'on avait laissé pour faire une certaine apparence, soit gagnant.
Alors, vous voulez parler là de Massoud Pezeshkian. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, il faut rappeler que tous les candidats ont été validés par le régime, que les Iraniens font donc face à un choix limité par ce processus d'approbation des candidats. Je voulais savoir, est-ce que les chiffres de participation qui vont être communiqués, est-ce que ces chiffres seront fiables déjà?
Aucun pouvoir autoritaire, il n'y a pas des instruments de l'observation et on ne peut pas faire confiance. Mais il y a une chose, quand une élection s'apprend dans les rues, dans les villes, dans les différents endroits, à ce moment-là, pouvoir autoritaire commence à ébranler parce que l'objectif n'est pas seulement de rassurer l'opinion internationale. À l'intérieur de chaque ville et chaque rue, les gens voient s'ils sont mobilisés ou non. L'expérience de la République islamique, dès le début jusqu'à maintenant, c'était justement ces soubresauts d'une partie de l'électorat qui, d'une manière qu'on n'arrive pas à voir avant, s'engouffrent dans le jeu et créer des problèmes sérieux pour le pouvoir.
Alors, s'engouffrer dans le jeu, ça voudrait dire, pour vous, si je vous comprends bien, voter pour ce candidat réformateur Massoud Pezeshkian. En quoi il diffère des autres candidats?
On ne vote pas pour le candidat réformateur en ce moment-là. On votera pour le différent. Le candidat qui pourrait faire ébranler le système. Le candidat qui pourra lui créer le plus de problèmes. L'électorat aussi s'est habitué à ce genre de choses. Monsieur Pezeshkian, par sa nature même, par son travail, il n'est pas très politique, il n'est pas un bon orateur. Il a été choisi, sélectionné pour donner une apparence qu'il y a aussi un élément qui vient des anciens réformateurs. En plus, c'était quelqu'un qui appartient à des minorités nationales et religieuses du pays par ses comportements. Tout était prêt pour avoir un bon candidat qui permettra d'arranger la table des invités. Mais l'électorat, celui qui veut voter, a trouvé le moment propice. Il en résulte que M. Pezeshkian, qui dans les premiers sondages, c'est des sondages qui s'est fait dans la République islamique, d'accord? Dans les premiers sondages, on lui donnait 14%. Aujourd'hui, on lui donne 37%. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il passera au deuxième tour. Et aujourd'hui, même, je peux vous dire qu'au deuxième tour, il peut gagner les candidats de pouvoir.
Et ça veut dire que les réformateurs ont encore une forme de crédibilité au sein de la population et notamment au sein de la population
dans
qui a manifesté
un système d'autoritarisme,
son hostilité au régime.
Le terme même de réformateur révolutionnaire, ça donnait de crédibilité. C'est position, l'opposition. Et le problème le plus important, c'est pouvoir qui veut garder la position, coûte que coûte, et à ce moment-là, le candidat devient un drapeau pour les contestataires qui ont choisi de transformer les urnes comme un endroit de bataille de la société avec le pouvoir.
Alors, vous parlez de cette bataille. On se souvient évidemment de la répression féroce du régime après ce mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'une quadragénaire qui a préféré conserver l'anonymat. Alors, un témoignage qui date déjà de plusieurs mois puisqu'il a été recueilli par Oriane Verdier au moment de l'anniversaire de la mort de Mahsa Jina Amini fin 2023. Mais j'ai trouvé qu'il était très intéressant. On l'écoute.
L'assassinat de Mahsa Jina Amini a fait exploser la colère étouffée pendant ces 43 années. On pourrait croire qu'aujourd'hui, ces manifestations sont éteintes, mais ce n'est pas le cas. En réalité, la colère des gens est comme le feu sous la cendre. Les gens sont très énervés. C'est un régime sur le départ. Ce régime criminel n'a plus sa place et n'aura plus jamais sa place parmi nous.
Ce que vous me dites, Monsieur Salamatian, c'est que cette colère couve toujours et qu'elle pourrait s'exprimer d'une manière ou d'une autre lors
où
de ce scrutin.
Il va y avoir les divisions de l'armée étrangère qui va défaire la République islamique, ou c'est la population iranienne qui devra le faire, qui est désarmée, qui n'a pas des armes, qui n'a pas des tanks, qui n'a pas la possibilité de s'organiser militairement. À ce moment-là, je dis que cette société trouvera la meilleure manière pour abattre le pouvoir. Je suis très optimiste sur l'issue de sort de la République islamique qui devrait partir, qui devrait aller aux archives de l'histoire, mais je crois que c'est la population iranienne, par ses propres moyens, par ses propres méthodes, qui y arrivera. Et c'est pas moi à Paris, en étant le révolutionnaire le plus pur ou le plus impur qui aurait quoi que ce soit pour dire comment le rapport de force change dans les villes, les villages, les différents endroits du pays. Et une élection présidentielle au suffrage universel, c'est le moment que le pouvoir va mendier d'une certaine manière les gens de venir aux urnes. Et s'il vient aux urnes, à ce moment-là, il est rentré dans un jeu. Il ne peut pas, malgré tous les moyens de contrôle qu'il a, de prévoir et contrôler l'issue. On vit aujourd'hui à ces heures-ci en Iran dans une épreuve comme ça. On en a eu déjà en 2007, on en a eu déjà, mais même les premières élections présidentielles iraniennes, c'est un des moments où la société a décidé d'utiliser le théâtre électoral pour un champ de bataille.
Alors, Ebrahim Raïssi, qui est mort dans cet accident d'hélicoptère, était pressenti pour succéder au guide suprême, Ali Khamenei. Quel rôle jouera le président prochain dans l'organisation de cette succession, si le régime tient toujours, puisque vous avez l'air de dire qu'il est en passe de s'écrouler. Mais ça, c'est peut-être un petit peu hypothétique.
Le président de la République en Iran, si c'est un mollah qui appartient au sérail de gérontologie religieuse, il peut avoir une influence pour l'élection de guide et la succession. Un président de la République qui n'a pas ces attributs-là a moins d'influence. Tout était arrangé pour que ce soit M. Raïssi, qui était en même temps vice-président de l'Assemblée des experts, qui soit l'homme qui décidera au moment de la mort de M. Khamenei de la succession. Ce n'est pas lui qui était le successeur. C'était, à mon avis, le fils de Khamenei qui est dans l'ombre. Mais le jeu, l'événement, l'hélicoptère a fait que toutes les choses se sont accélérées. Le président iranien qui va être élu, ça n'aura qu'un petit strapontin pour la guerre de succession, c'est évident. Mais ça changera le rapport de force à l'intérieur de la société. Et au jour d'aujourd'hui, je dis, le jeu électoral, ça c'est un des problèmes du régime autoritaire. Il ne faut pas qu'il passe dans l'épreuve d'une élection qu'il va abattre tout le monde. Et la République islamique, avec la mort de Raïssi, avec la tournure qu'a pris cette élection-là, se trouve dans une de ces épreuves.
Alors, l'une des épreuves quotidiennes que doit affronter la population, c'est la situation économique désastreuse du pays. Ça a été d'ailleurs l'un des principaux sujets de la campagne. Le quotidien est devenu insurmontable pour beaucoup d'Iraniens. Et je vous propose d'écouter à ce sujet la professeure jointe lundi par Oriane Verdier, qu'on a déjà entendue en début d'émission. Elle habite une grande ville proche de Téhéran.
Du jour au lendemain, tout devient plus cher. Beaucoup de biens sont liés au dollar et le dollar est un peu plus cher chaque jour. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus de maison ni de quoi s'acheter à manger. Les personnes qui sont atteintes de maladies particulières ont beaucoup de mal à payer, mais aussi à trouver les traitements dont elles ont besoin. Elles sont dans une situation terrible.
Est-ce que ce sont les sanctions imposées après la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien décidé par Donald Trump en 2018, est-ce que ce sont ces sanctions qui sont la raison principale de ce marasme économique ?
Absolument pas. Absolument pas. C'est l'incompétence d'un régime corrompu jusqu'à moelle d'os qui a créé que les deux dernières années de M. Raïssi, on a eu chaque année 42% d'inflation. Exceptionnel dans l'histoire de l'Iran depuis qu'on fait des statistiques. Mais le problème, c'est que l'économie et le mécontentement économique tout seul ne peut pas la politique pour changer l'issue d'une élection présidentielle. Il faut qu'il y ait dans l'état politique un moyen pour essayer et de faire qu'il y ait une volonté contestataire ou politique qui va avoir effet pour l'élection, où il va transformer la scène de l'élection présidentielle en une grande vaste de contestation sociale, dont son importance dans les circonstances actuelles de l'Iran et la région est beaucoup plus importante que les bombardements d'un adversaire ou d'autres sanctions américaines. Le rapport de force change en Iran à l'intérieur du pays.
Mais vous pensez que la population est prête à faire bouger les choses après cette vague de répression terrible qui a suivi les manifestations de 2022 ?
Monsieur Raïssi est un homme dont la gloire était d'avoir exécuté 7000 personnes en une semaine. Ça n'a pas empêché la société iranienne de garder sa vitalité. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi cette société qui a pris l'expérience et l'habitude de lutter par ses moyens propres, d'accord, ne pourra pas et sera complètement démuni de tout moyen de combattre son adversaire qui le connaît mieux que moi ici à Paris.
Alors, vous y avez fait allusion, ce scrutin intervient dans un contexte régional marqué par la guerre à Gaza. Une présence n'est d'ailleurs pas passée inaperçue lors des funérailles du président Raïssi. C'est celle du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui est venu rendre hommage au chef d'État iranien défunt. Et en le recevant, le guide suprême a promis la poursuite du soutien de l'Iran et la disparition de l'État hébreu. On écoute Ali Khamenei.
La première promesse divine s'est réalisée pour vous. Vous êtes un petit groupe qui a réussi à prendre le dessus sur le groupe le plus important, c'est-à-dire les États-Unis, l'OTAN et d'autres. L'autre promesse est la disparition d'Israël, qui est également réalisable. La création d'un État palestinien de la mer au fleuve. Grâce à Dieu, vous verrez aussi ce jour.
Alors, jusqu'ici, les experts semblaient s'accorder sur le fait que l'Iran ne souhaitait pas d'embrasement en marge de la guerre à Gaza, mais les tensions sont de plus en plus fortes à la frontière avec le Liban. Cet après-midi encore, le ministre français des Affaires étrangères s'est dit extrêmement préoccupé par la gravité de la situation. Hier, le ministre israélien de la Défense a déclaré avoir la capacité de ramener le Liban à l'âge de pierre. Alors, que ferait Téhéran si Israël mettait à exécution ses menaces sur le Liban, Liban où sévit donc le Hezbollah, qui est un des proxys
Il combattrait un peu plus sa population. Faute de pouvoir combattre les autres, on croit le plus faible, c'est la population dominée iranienne. Le pouvoir iranien utilise à fond toutes les tensions internationales pour réprimer encore plus dur la population iranienne à l'intérieur. Donc, la tension géopolitique sert les intérêts de pouvoir autoritaire en Iran.
Et est-ce que le nouveau président aura son mot à dire sur un éventuel engagement massif derrière le Hezbollah ?
Si le nouveau président, il a déjà commencé, tous ils ont commencé déjà de dire que l'Iran devrait s'occuper de l'intérêt de son propre intérêt, non pas l'intérêt des autres. Déjà aujourd'hui, dans l'évolution des sondages et l'élection en Iran, l'intervention de Hezbollah et les autres très importants en faveur des candidats qu'on appelle autoritaires, de
conservateurs.
De Serraï. Mais les candidats qui vont amener avec lui des votants qui vont voter pour lui, nécessairement, il faut qu'ils se distinguent. Et ils ont commencé à dire que ce n'est pas notre affaire d'aller combattre à la place des autres. Et encore, je dirais, l'évolution de la situation iranienne aura le plus d'importance sur le changement de rapport de force régional que le contraire. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire ? Malheureusement, ici, on n'a pas encore accepté qu'en Iran, il y a une population qui a une classe moyenne le plus évoluée de Proche-Orient, le plus nombreuse, le plus éduquée et le plus expérimentée par 40 années d'exercice quotidien de la République islamique. Il sait mieux combattre son adversaire qu'est la République islamique que les observateurs ailleurs comme moi.
Et sous la présidence de Raïssi, l'Iran a aussi livré des drones de combat à la Russie pour qu'elle les utilise en Ukraine. Ça peut aussi changer avec un nouveau président ?
Le nouveau président n'a pas de mot à dire dans les problèmes géopolitiques concernant l'armée, tout ça. C'est le guide. Le guide est le tutelle qui a privé. Mais le président, s'il vient dans le sérail de pouvoir avec un appui de la population, ce rapport de force peut très bien changer les données dans un pays où malheureusement la répression, la tension internationale empêche l'organisation. Nous sommes dans un monde où les grandes démocraties ne peuvent pas contrôler leur situation. Comment voulez-vous un pays qui vit depuis 40 ans sous la dictature ait le moyen de s'organiser, se structurer et avoir des armes de combattre un des pouvoirs le plus féroce ?
On a parlé de ces trois candidats du pouvoir, trois candidats ultra-conservateurs. Il y a quelque chose qui les distingue ?
Il y a un seul candidat conservateur et il y a quatre autour de lui qui étaient uniquement là pour essayer de le faire avancer. Et le seul candidat qui est leur candidat va se trouver ou déjà éliminé au premier tour ou au deuxième tour face à M. Raïssi, M. Pezeshkian.
Donc vous nous annoncez déjà
les résultats. Sauf si le pouvoir réprime comme il a fait en 2007.
Très bien, je vous remercie beaucoup Ahmad Salamatian. Je rappelle que vous êtes analyste de la situation iranienne, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères, auteur de L'Amérique en otage, 444 jours de diplomatie secrète en Iran, paru aux éditions Rive Neuve. C'est Fabrice Viollet qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci Fabrice, merci à Éléonore Krenik qui m'a aidé à la préparer. Et puis il me reste à vous signaler le dossier spécial Iran demain matin dans le journal de 9h, heure de Paris. Sur